L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Ce qui est intéressant et marrant avec le narcissisme ou l'individualisme, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est les autres. Et évidemment, vous allez voir qu'en écoutant l'épisode, ça va beaucoup résonner parce que ça va résonner en vous. En tout cas, ça a résonné en moi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Coquebert, qui est journaliste, qui a écrit ce livre qui s'appelle Unique au monde, que j'ai adoré parce qu'il est extrêmement documenté avec énormément de chiffres sur beaucoup de tendances, sur le retour à soi, le retour au corps, sur les tatouages, sur le pouvoir d'achat, le pouvoir d'être soi, le consumérisme, le capitalisme, cette civilisation du cocon. Vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment passionnant, pas tant qu'on donne des réponses, mais simplement parce que ça permet de comprendre le monde dans lequel on vit et pourquoi on vit dans ce monde. Et bien sûr qu'il y a des solutions, entre guillemets, des voies de sortie, mais ce qui est surtout intéressant, c'est cette photographie à l'instant T de cette société. En tout cas, c'est un épisode que moi j'ai adoré enregistrer, c'est un livre que j'ai adoré lire. J'espère que vous allez l'apprécier aussi. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Vincent, comment vas-tu ?
Très bien.
Comment tu te sens ? C'est
ça. Aujourd'hui, je me sens plutôt bien, ça va, j'ai bien dormi et...
Et c'est important.
Je suis en forme pour une fin de semaine.
Bon bah c'est parfait. J'ai beaucoup aimé ton livre parce qu'il il résonne, mais en plus il est hyper documenté. Il y a beaucoup de chiffres, ce qui est assez étonnant sur ce type de sujet, je trouve. Et je voudrais commencer par la toute première citation du livre, qui est « Si le monde ne tourne pas rond, c'est que chacun pense en être le centre ». Et ça m'a beaucoup marqué parce que ça résonne, évidemment. Qu'est-ce que ça dit de notre société, en fait ?
Alors déjà, cette citation, elle n'est pas de moi, puisque c'est une citation. Elle vient du rappeur Fuzati dans une chanson qui s'appelle Planétarium. Et ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on observe le monde depuis notre point de vue, depuis nos représentations, depuis quelque part un peu notre nombril, et on n'est plus en train d'observer le monde dans tout son panorama, dans toute sa complexité et dans tous ses, on pourrait dire, dans tout ce qui peut grincer finalement dans ce monde. Et pourquoi ça ne le fait tourner pas rond, c'est que le monde, en fait, c'est une somme d'individus, c'est la société des individus, donc avec des gens qui nous ressemblent pas forcément, des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, des gens qui même parfois pas vont nous déplaire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît de plus en plus insupportable. Et ça nous fait quelque part envisager l'altérité comme autant d'obstacles. Donc c'est observer le monde. En fait, il faut observer le monde, évidemment, à travers ses propres représentations, on peut pas faire autrement, mais en essayant de comprendre aussi qu'il y a toute une somme de représentations qui ne sont pas les nôtres et avec laquelle on va devoir composer.
Comment on est arrivé dans cette situation de société hyper individualiste que tu décris dans le livre ?
Alors c'est un long processus, mais une des grandes promesses, en fait, de ce qu'on appelle la modernité, il y en a deux. C'est celle, en fait, déjà le mythe du progrès. Demain sera mieux qu'aujourd'hui, et c'était pas mieux avant. C'est une vieille antienne conservatrice. Et l'autre promesse de la modernité, c'était en fait de pouvoir nous inventer, de pouvoir nous arracher, en fait, de notre destinée, de notre lignée familiale, de notre territoire géographique, voire de la reproduction. On va dire par exemple reprendre la terre de son père qui était celle de son grand-père. Donc en fait de pouvoir quelque part devenir l'inventeur de sa vie au niveau politique, au niveau idéologique, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amoureux. Et c'est une promesse en fait qui s'est notamment réalisée à travers ce qu'on a appelé la société de consommation, parce qu'elle elle permettait à travers toute une somme de loisirs ou d'objets de symboliser en fait les aspirations à notre ascension sociale ou du moins à notre transformation sociale. Sauf que c'est une promesse qui est une très belle promesse, mais c'est une promesse qui est foncièrement inégalitaire, qui est fragile et qui est toujours en tension. Et on appelait ça en fait d'ailleurs la fatigue d'être soi dans les années 90, où c'était ce qu'on appelait le décalage. Finalement, c'était le sociologue Alan Ehrenberg qui en avait parlé, et c'était le décalage entre notre vie rêvée et notre vie réelle. Et ce décalage foncièrement béant, parce qu'on n'arrive pas tout le temps à atteindre ses rêves, et d'ailleurs nos rêves sont perpétuellement en train de se renouveler, venait créer, en fait, c'est pour ça que la dépression et la maladie du XXe siècle venaient en fait créer beaucoup de tristesse et beaucoup de malheur chez les individus. Et on a pu observer dès les années 80, qui est une décennie pour vos plus jeunes auditeurs qui n'ont pas vécu, c'était une décennie vraiment qui était un peu la décennie fric et frime, où les valeurs de compétition, de performance, de réussite étaient vraiment mises en avant. C'est la figure du golden boy qui émerge.
C'est Bernard Tapie. Pour ceux qui ont vu la série.
Tout à fait.
C'est
Bernard Tapie qui symbolise tout à fait cette figure-là. Et c'est aussi la décennie des premiers, qui sont à la suite évidemment du choc pétrolier des années 70, mais où il y a eu vraiment énormément de licenciements et l'État même qui dit à travers la voix de Mitterrand, l'État ne peut pas tout en fait. Et où on a pu observer tout de suite chez les classes populaires une première phase de repli. Donc un repli qui a d'abord été un repli domestique, où c'est le début du fantasme du petit pavillon de banlieue, c'est le début du jardin, du marché du jardinage, du marché de la décoration, et ce qu'on a ensuite appelé dans les années 90 le cocooning. Ensuite, cette pulsion, on va dire, ce besoin de se retrouver dans une bulle, d'être face à un monde qu'on sentait de plus en plus hostile, dur, et où cette promesse aussi, finalement, d'épanouissement de soi et surtout d'un monde qui tend vers le mieux, est venu un petit peu montrer ses limites et a infusé finalement un peu dans tout le corps social et ensuite s'est matérialisé à travers la numérisation, toute une manière en fait de pouvoir faire venir le monde à soi. Donc à partir de, grâce à Internet quelque part, grâce aux nouvelles technologies, on a pu domicilier d'abord la consommation, ensuite on a domicilié la culture, aujourd'hui on domicilie les relations sociales. Et donc en fait toute cette posture de la civilisation du cocon fait qu'on est devenu en fait les grands ordonnateurs de nos petits mondes. Et nos petits mondes en fait dans lesquels on a l'impression de pouvoir complètement cerner les contours, et qui nous fait en fait ressentir l'extérieur et le monde extérieur comme de plus en plus étranger, hostile, et surtout où l'altérité nous paraît de plus en plus rugueuse et de plus en plus lointaine. Et donc en fait cette épidémie de narcissisme pour moi est ce que j'ai appelé l'ère de l'égocène. C'est une réponse en fait à cette civilisation du cocon qui fait que la dialectique entre l'extérieur et l'intérieur se faisant de plus en plus mal, quand aujourd'hui on va vers le monde, on n'arrive plus à le cerner dans toute sa complexité et dans toute sa rugosité, dans tout son côté complexe, dur, parfois injuste, et on essaye de plus en plus d'avoir un monde qu'on appellerait sur mesure, enfin du moins un monde qui nous ressemble. Parce que vu qu'on est évidemment dans cette posture de repli là et avec quelque chose de très confortable et de très agréable, de très concon en fait, l'extérieur étant de plus en plus dur, on va essayer d'en dessiner les contours en exigeant de manière un peu fantasmatique et un peu désespérée quelque chose qui nous ressemble. Donc aujourd'hui, ça peut se voir à travers la consommation, mais à travers aussi tout un autre champ. Et ça passe en fait des fictions où il faut absolument qu'on puisse s'identifier aux personnages. Ça passe même à nos hommes politiques qui doivent nous ressembler. Par exemple, quand on interroge les abstentionnistes sur les raisons de leur non-vote, ils disent souvent « je me reconnaissais pas totalement dans cet homme ou dans cette femme politique ». Parce qu'en fait, on veut aujourd'hui que le monde nous ressemble, sans comprendre en fait qu'on se sent un peu comme des monades, un peu déconnectées d'un grand ensemble. Et aujourd'hui, tout doit être quelque part, évidemment c'est un fantasme, parce que c'est pas quelque chose qui est tout à fait réalisable, tout doit être à notre mesure, sinon on le ressent comme violent, sinon on le ressent comme malaisant. Et c'est une dialectique entre l'intérieur et l'extérieur qui se fait de manière de plus en plus compliquée. Et le narcissisme est une réponse défensive en fait un petit peu à ça, parce que les champs de valorisation narcissique, donc, étaient que le travail, la famille, la vie sociale, la vie politique, étant de plus en plus incertains, on voit bien qu'aujourd'hui, bah, les trajectoires professionnelles sont plus compliquées, les trajectoires amoureuses sont aussi très compliquées. L'espace du politique est complètement vide. Depuis les années 80 aussi, on a beaucoup moins de discours sur les utopies collectives, sur un futur qui va être désirable. Eh bien, tout cet espace vide aujourd'hui a été occupé par des discours qui sont souvent des discours marketing ou de développement personnel, qui vont en fait venir aussi nous parler au cœur, nous narcissiser, et donc en fait avoir tout se substituer finalement à une sorte de narcissisme positif qui est celui de faire partie d'une collectivité qui fait des choses ensemble et qui fait aussi des choses seules, mais qui fait aussi des choses ensemble pour attendre vers le mieux. Et aujourd'hui, en fait, on nous dit quelque part que le vrai voyage, la vraie aventure, elle est intérieure, la vraie quête, elle est intérieure, il faut se chercher. Et donc, c'est là où finalement l'affirmation de soi et la pseudo-réalisation de soi deviennent finalement la dernière petite utopie.
Et d'ailleurs, pendant que je t'écoutais, je me disais, dans les années 90, arrive aussi la psychologie positive et donc le développement personnel. Et je me demandais où est-ce que tu positionnais ça à l'intérieur de cette quête, mais en fait c'est ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que finalement le développement personnel participe ou est une réponse narcissisante à ce... Est-ce que c'est un mal-être? Est-ce que c'est un... Je ne sais même pas exactement comment décrire cette situation finalement.
Bah en fait, le développement personnel est venu un petit peu se substituer à un discours social et politique qui est celui de donner de la cohérence à la vie en société, à la vie en commun, en parlant, c'est ça aussi qui est très, on va dire, qui est assez ironique, c'est que ce sont souvent des best-sellers qui sont vendus à des centaines de milliers de personnes, tout en donnant le sentiment en fait qu'on leur parle à eux précisément. C'est parce qu'en fait la société du narcissisme en fait est celle de l'effet Barnum élargi. L'effet Barnum, c'est ce qui se passe quand on lit l'horoscope. C'est un discours très généraliste, mais dans lequel on va dire « Ah tiens, il parle de moi ». Et c'est ça, en fait, un petit peu la ruse du développement personnel, c'est de venir, en fait, flatter le narcissisme de l'individu en lui disant, finalement, le problème, ce n'est pas toi, c'est le monde. Donc, en fait, pour aller mieux, il va falloir que tu ailles chercher ta flamme intérieure, il va falloir que tu ailles chercher ce qui fait de toi quelqu'un de si unique et de si singulier, et ensuite, tu vas venir l'imposer au monde, parce que c'est le monde qui se trompe. Et c'est là où ça a quelque chose de très piégeant, c'est qu'on est très narcissisé, on va mieux souvent en lisant un bouquin de développement personnel, mais ensuite sa mise en application dans le quotidien, dans notre vie tout simplement, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la pensée magique.
C'est inadapté, ouais. Voilà. Mais alors comment c'est une question qui est un peu tôt dans la discussion, mais en même temps, parce que je te pose la question. Comment on fait si on va pas vers cette quête individuelle? Comment t'envisages ce monde? Comment tu vis dans ce monde qui lui-même est en changement? Parce que tu parlais de la modernité au tout début, et en réalité, on a changé d'époque en réalité. On est plus dans la modernité. Ça fait un petit moment qu'on n'y est plus depuis les années 80. On sait qu'on n'est plus vraiment dans la modernité. Mais on sait pas où on est.
C'est ça. Oui, tout à fait.
On sait pas. Aujourd'hui, on parle d'anthropocène, on parle de postmodernité, on parle d'égocène, on parle de... En fait, il n'y a pas de mots. Et quand il n'y a pas de mots, ça veut dire qu'on sait pas où on est, concrètement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs terminologies qui expliquent la posture dans laquelle on est, mais on ne sait pas très bien la décrire. Mais en tout cas, c'est plus la modernité, parce que l'hyper-individualisme commence à toucher à sa fin, le progrès touche à sa fin, on est plus dans le présent. Qu'est-ce qui caractérise aussi la modernité? Il y a l'analyse, on rentre plus dans des visions holistiques, etc.
La fin de la rationalité aussi.
Ouais, complètement, on repasse dans le magique, alors qu'on était dans la vérité avant. Voilà, il y a plein de choses qui... Donc on voit avec typiquement l'horoscope, les plantes médicinales, les oracles de tout genre, etc., etc. On rentre dans la magie. Donc la question, pardon, parce que c'était une longue tirade, c'est de dire comment tu vis dans ce monde si c'est pas comme ça, d'une certaine manière?
Alors en fait, je pense que les gens composent, et c'est aussi pour ça qu'on est tellement avec ce brouillage des frontières entre le rationnel, l'irrationnel, le jeu, le nous, voilà, une sorte aussi un petit peu d'ultra-présentisme aujourd'hui, qui est même sous la forme de quelque chose qui est un petit peu hystérique. Mais donc les gens font comme ils peuvent. Mais surtout, on se rend compte qu'ils font comme ils peuvent, mais qu'ils souffrent. On a la... on va dire qu'on parle aujourd'hui de récession de l'amitié. Il y a des études très documentées là-dessus qui montrent à quel point les gens n'ont jamais été si peu entourés. C'est en une vingtaine d'années aux États-Unis, le nombre d'hommes qui cultivaient au moins 6 amitiés a été divisé par 2. Le pourcentage de personnes qui n'ont aucun ami est passé de 2% à 12%. C'était encore récemment SOS Amitié qui sortait une étude qui s'alarmait en fait du nombre d'appelants de moins de 14 ans qui avaient était augmenté de 40%. À côté de ça, on se rend compte aussi que l'anxiété est quelque chose qui est de plus en plus répandu. Le nombre de pas que les jeunes d'ailleurs, mais surtout aussi les jeunes cohortes, parce que c'est vrai qu'on est plus fragile quand on est plus jeune, n'a jamais été aussi fort. Et à côté de ça, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose en fait où le futur étant, alors il y avait évidemment la fin du mythe du progrès, mais aujourd'hui le futur devient même quelque chose de profondément angoissant. Donc en fait, les gens voilà font un petit peu comme ils peuvent, ils en souffrent et rêvent de. Pour ça que le terme de collectif, le terme d'utopie, de comme on a pu le voir par exemple pendant le Covid, où beaucoup d'individus ont fantasmé, ça y est, en se disant le monde d'après va tendre vers quelque chose de plus humain, de moins névrotique, de plus collectif. On sent que le fantasme est là, que cette envie est là, cette envie est latente, mais que le rythme du monde, de la